La collection Culture Accessible vous propose de découvrir les artistes Jeanne-Claude et Christo au travers de l'œuvre Package, un emballage d'objets réalisé en 1961 par Christo. Des premiers objets emballés aux projets monumentaux en plein air, l'art de Christo et Jeanne-Claude a transcendé les limites traditionnelles de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. La pratique de Christo et Jeanne-Claude est une pratique déconcertante, inclassable, paradoxal, qui emprunte à plusieurs registres et qui a été diversement catégorisé au fil du temps. Un temps nouveau réaliste, un temps conceptuel et un temps land art. L'équipe de Christo et Jeanne-Claude a terminé l'Arc de Triomphe Rapid Paris 1961 à 2021, puis s'est concentré sur la finition de la seule œuvre d'art public permanente et à grande échelle des artistes, The Mastaba, lancé en 1977 et toujours en cours. Grâce aux deux planches tactiles à votre disposition, vous allez pouvoir explorer d'une part l'œuvre dans son ensemble sur la grande planche tactile sur la page de droite et d'un autre côté comprendre sa structure sur la planche de détail au format A4. Cette œuvre mesure 92 cm de hauteur, 73 cm de largeur et 26 cm d'épaisseur. Vu de face, cette œuvre forme une sorte de rectangle posé sur le sol. Grâce à l'embossage, vous allez pouvoir ressentir les creux et les pleins de l'emballage, réalisés par le ficelage de l'artiste. Les matériaux visibles sont un tissu beige décoloré et légèrement jauni, et plusieurs cordes l'enveloppant. Le recouvrement est tel qu'on ne sait pas ce qui s'y cache. On suppose un cadre en arrière-plan, avec devant une partie bien plus molle et épaisse, donnant cet effet de coussin. Sur la planche de détail, vous pouvez toucher les contours de l'objet ainsi que les principales lignes de tension des cordes nouées autour de l'objet. Toutes ces lignes que vous ressentez correspondent donc aux cordes qui sont en réalité bien moins grosses et d'épaisseur variable. Ces cordes se croisent et s'entremêlent et physiquement et visuellement. Toujours sur cette planche de détail, en prêtant attention, vous pourrez ressentir des points correspondant aux nœuds dont l'embossage est plus large et qui correspondent en réalité aux nœuds réalisés par l'artiste avec les cordes. Ces cordes forment un grand réseau solide et tendu, à tel point que ce qui se trouve à l'intérieur essaye de s'échapper, créant des zones de gonflement. La pratique de Christo et Jeanne-Claude. C'est à 23 ans que Christo et Jeanne-Claude, nés tous les deux le 13 juin 1935, se rencontrent à Paris. Christo a fui la Bulgarie communiste en passant par Prague, Vienne, puis Genève, pour s'établir à Paris en mars 1958. De sa formation à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia, il retient une maîtrise des disciplines classiques mais ne cesse de vouloir dépasser la peinture de chevalet. Les années parisiennes de Christo sont celles de la mise en place de son langage artistique, le travail en relief des surfaces, l'empilement, l'empaquetage, le début des vitrines occultées et la collaboration avec Jeanne-Claude, le développement des projets monumentaux en extérieur qui caractérisent la démarche créative des deux artistes. La première partie de l'exposition présente les créations des années 1958 à 1964, date à laquelle les artistes s'installent définitivement à New York. La deuxième partie retrace toutes les étapes du projet parisien, le Pont Neuf Empaqueté, mené de 1975 à 1985. Au milieu du parcours, le film des frères Miles, Christo in Paris 1990, rend compte de l'élaboration de ce projet urbain, tout en évoquant la biographie de ce couple, dont le travail commun a fait naître des œuvres parmi les plus spectaculaires de l'histoire du XXe et XXIe siècle. À son arrivée à Paris, Christo réalise des portraits à l'huile sur toile de familles de la haute société afin de gagner sa vie. Parallèlement à ses travaux, il empaquette des petites boîtes cylindriques en métal, des bouteilles avec du tissu, rigidifiées par la laque et les entoure de ficelles. Ses recherches, qui intègrent ensuite des éléments de mobilier puis des barils, constituent ce que Christo appelle son inventaire. Il confectionne également des surfaces d'empaquetage, en utilisant du papier, parfois du tissu, auquel il donne un aspect accidenté par le froissage, des plis que la laque vient figer et la peinture assombrir par endroits. À cela, l'artiste ajoute du sable et de la poussière pour leur donner un aspect misérabiliste. Ces œuvres constituent l'une des propositions de Christo en réponse aux recherches picturales parisiennes de l'époque. Mais c'est surtout le travail matérialiste de Jean Buffet qui impulse une série méconnue et présentée ici pour la première fois, les cratères. Le vocabulaire de l'artiste s'étend bientôt aux barils, dont il réalise des empilements sous forme de colonnes ou d'accumulations. À l'automne 1961, en réaction à l'érection récente du mur de Berlin, Il imagine de barrer la rue Visconti à Paris avec des barils. Projet qu'il fait aboutir avec la complicité de Jean-Claude le soir du 27 juin 1962, avant qu'il ne soit sommé par la police de démanteler son édifice. Dès 1961, Christo avait envisagé d'empaqueter un bâtiment public parisien. Et en 1962, il forme les vœux d'empaqueter l'Arc de Triomphe, projet qui verra le jour en 2021. La chronologie exacte des expériences artistiques parisiennes de Christo n'est pas toujours facile à établir. Les empaquetages, aspect le plus connu des années 1958 à 1964, se développent surtout à partir de 1960. Christo privilégie le tissu, dans un premier temps froissé et laqué, puis il expérimente le tissu brut sans abandonner ses recherches précédentes. L'attention de l'artiste se porte sur l'association des textures variées, sur les jeux de matière et de couleurs. Les cordes et ficelles sont également choisies avec précision. Les empaquetages restent toutefois mystérieux dans leur contenu, l'artiste se refusant à désigner les objets cachés au regard. Par la suite, Christo ne couvre que partiellement certains objets, en particulier du mobilier. Courant 1960, il découvre le polyéthylène, un plastique transparent qui le conduit également vers d'autres recherches, l'empaquetage de statues et de modèles vivants. Fin 1962, Christo participe à l'exposition New Realist à la galerie Sidney Janis à New York. Malgré l'importance de cet événement pour Christo, placé aux côtés d'Américains de renom tels qu'Andy Warhol, il est abusivement classé dans le texte de présentation du catalogue parmi les artistes dont la démarche révèle du ready-made. En effet, le geste de Christo déconcerte. Il n'est pas assimilable à cette approche, pas plus qu'à un commentaire sur la question de l'emballage dans la société industrielle. Enfin, l'association de Christo avec le mouvement du nouveau réalisme, fondé par Pierre Restany en octobre 1960, n'a été que ponctuel et il ne s'est jamais vraiment senti affilié au groupe, même s'il a pu s'entretenir des relations d'amitié avec certains de ses membres. Avant de s'établir à New York en 1964 avec Jean-Claude, Christo débute une nouvelle recherche autour des vitrines et devantures de magasins reconstitués, qu'il occulte depuis l'intérieur avec du papier ou du tissu. Ce qui deviendra la série des storefronts confirme l'intérêt de l'artiste pour la dimension architecturale, constitutive des projets urbains développés ultérieurement avec son épouse et collaboratrice artistique. Les projets d'empaquetage du Pont Neuf en est un exemple magistral et fait l'objet du second volet de l'exposition. Dès 1975, Christo et Jean-Claude développent l'idée d'empaqueter le Pont Neuf avec la toile polyamide de couleur gris doré, qui recouvrirait les côtés de la voûte, des douces arches du pont, les parapets, les bordures et les trottoirs, le public devant pouvoir marcher sur la toile, ses 44 lampadaires, ainsi que les parois verticales du terre-plein, de la pointe occidentale de l'île de la Cité et l'esplanade du Vert-Galant. En choisissant le Pont Neuf comme objet du geste d'empaquetage, Christo et Jean-Claude souhaitent non seulement créer une œuvre temporaire, en prise directe avec le réel, mais aussi inscrire leur proposition dans l'histoire de ce pont parisien comme source d'inspiration des artistes. Après Turner, Renoir, Brassailles, Pissarro, Marquet, Christo et Jean-Claude dépassent la question de la représentation picturale pour opérer une transformation qui souligne la qualité architecturale du pont et renouvelle notre rapport à l'appréhension de ses volumes et à la déambulation. The Pont Neuf Rapid, Paris 1975-1985, comme tous les projets à l'extérieur des deux artistes, a été présenté pendant une durée très brève, du 22 septembre au 6 octobre 1985, et a nécessité un dispositif technique et humain colossal, sans compter les 10 années de négociations auprès des politiques et des riverains. Les artistes financent leur réalisation monumentale exclusivement grâce à la vente de collages et des dessins préparatoires réalisés par Christo, et ce, dès l'origine du projet. Ils veillent cependant à conserver, pour chaque projet majeur, un ensemble significatif de ses œuvres, la maquette du projet, les documents témoignant des étapes de concrétisation et des éléments d'ingénierie rendant compte de la structure et de la protection du monument. C'est cet ensemble autour de l'empaquetage du Pont Neuf qui, telle une immense installation, est présenté au sein de l'exposition. Il témoigne de l'idée que les projets urbains de Christo et Jean-Claude ne se limitent pas au moment de l'empaquetage, mais commencent dès la première approche et négociation, s'inscrivant de fait dans une réalité de la vie. Bien avant les projets réalisés en extérieur et dans la continuité de l'inventaire, Christo empaquette fébrilement des objets dans un tissu. L'idée de ballot, de baluchon, semble pour ses œuvres à une notion de nomadisme sans doute la plus opérante. Résolument caractéristique de la démarche de Christo, Les paquets ont toutefois été l'objet de certains nombres de spéculations. Le critique Otto Hahn, dans un texte de 1965, initialement publié dans la revue Art International, ouvre son analyse sur la question du statut de l'empaquetage, qu'on trouverait davantage à leur place dans les gares ou dans les porte-bagages des voitures, une entrée en matière qui semble prometteuse. Est-ce une œuvre d'art, se demande-t-on. Dans le même temps, il souligne les qualités plastiques des empaquetages, leur beauté tragique ou encore leur expressionnisme tendu. Il n'échappe pas, toutefois, à qualifier plus loin la pratique de l'artiste de réalisme sociologique, dans une veine proche de celle de Restani, et salue une récente évolution du travail vers l'élaboration de vitrines occultées, sous-entendant que le geste de l'empaquetage s'essoufflait. Comme pour l'essentiel de la critique de l'époque, au moins jusqu'au milieu des années 1960, l'analyse du geste de Christo peine à dépasser la question de l'appropriation de l'objet de consommation, dans une version européenne teintée de surréalisme. C'est respectivement en 1969 et 1970 qu'il revient à deux auteurs, Lawrence Holloway et David Bourdon, de mettre le corpus d'œuvres de Christo en perspective pour proposer, à l'occasion de l'apparition d'ouvrages monographiques et de référence, une analyse plus approfondie de l'empaquetage, commentant un possible rapprochement du geste de Christo avec l'énigme d'Isidore Ducasse de Man Ray. Comparaison évoquée par le conservateur américain William Rubin et reprise maintes fois par la critique. Lawrence Holloway précise sa position vis-à-vis de Dada et de surréalisme. L'objet recouvert en 1920 relevait bien de l'iconographie érotique, qui est ce à quoi se limite essentiellement le surréalisme et en partie le dadaïsme. A contrario, affirme-t-il, la fonction des objets que Christo empaquette est interrompue au niveau de l'usage, pas au niveau symbolique. Il ne rend pas les objets énigmatiques ou onériques, il viole notre relation opérationnelle aux objets. Les objets empaquetés par Christo sont néanmoins tantôt identifiables, parfois partiellement visibles, tantôt totalement occultés, et l'effet produit sur le spectateur est à nuancer selon le degré de reconnaissance. David Bourdon, de son côté, propose un développement éclairant sur la privatisation de fonctionnalité de l'objet induite par le geste d'empaquetage de Christo, analyse fondée sur la conception du tissu comme membrane au sein de laquelle des transformations s'opèrent comme dans un organisme vivant. En occultant la nature de l'objet et en niant sa fonction, précise l'auteur, Christo fait de ses empaquetages des autocontradictions tenues entre le littéral et le métamorphique. Enfermés dans une cristalline, les objets sont métaphysiquement en transit. Christo a volontiers accepté l'assimilation du tissu à une enveloppe sensible. Le tissu est presque comme un prolongement de notre peau. Dès lors, les connotations érotiques ne sont pas absentes du geste d'empaquetage. À un extrême, on y retrouve la dimension sadique, quelque peu excessive, pointée notamment par Otto Hahn. Les cordes en serre, étranglent, cherchant le point faible avant de se nouer et de se renouer comme s'il s'agissait d'enchaîner un corps qui se débat. Et à l'autre extrême, l'amalgame troublant entre le conditionnement des produits de consommation et striptease. Comme dans cette formule de Lawrence Holloway, il y avait des références à l'omniprésence de l'emballage moderne et au striptease, dans lequel différer et refuser les feuilletages sont essentiels. C'est toutefois à propos de l'utilisation par Christo du polyéthylène semi-transparent que le critique avance cette comparaison. Ce matériau ouvrira les voies nouvelles de l'artiste, en particulier l'empaquetage de modèles vivants. Une première séance aura lieu au domicile d'Yves Klein à Paris, rue Campagne Première, en janvier 1962. Une seconde à Düsseldorf en février 1963, dans le studio du photographe Charles Wilp, posant la question, immédiatement évincée par Christo, du lien avec le happening. L'idée était de présenter un objet organique sur un socle, expliquera-t-il, regrettant de n'avoir pu mettre ce projet à l'exécution. Plus tard, il précisera, l'idée d'empaqueter une femme m'a surtout été inspirée par la sculpture classique, je crois, mais de manière très inconsciente. Cela a commencé lorsque je me suis mis à utiliser du plastique transparent. Après 1960, un matériau tout nouveau avec lequel j'ai fait des expériences très différentes au fil des années. Il aura de fait également empaqueté des sculptures avec ce matériau, comme dans les jardins de la Villa Borghese à Rome en 1963, ou encore sur l'esplanade du Trocadéro l'année suivante, mais aussi du mobilier et des objets. La question de l'occupation et de la révélation par la dissimulation, pour reprendre l'expression souvent citée de David Bourdon, ne saurait cependant circonscrire la pratique de Cresto, qui est peut-être avant tout celle d'un peintre et d'un sculpteur, attentif à la composition, à la couleur, à la tactilité, au volume. Ainsi que le fait remarquer un critique à propos des premiers empaquetages, leur sujet est moins la dissimulation de quelques contenus secrets que la possibilité visuellement expressive des volumes, des tissus, de la ficelle, du plastique, de la corde. Les propositions de Cresto offrent en effet un spectre étendu de variations subtiles. Une fois dépassée, la réaction, physique et comportementale, selon les termes de Lawrence Holloway, liée à l'impact de la chose cachée, le secteur peut apprécier les qualités plastiques et picturales de l'empaquetage, que la reproduction photographique peine à rendre, un aspect non négligeable pour l'appréhension de l'œuvre. Même quand je faisais les premiers paquets, confirme Cresto, je cherchais à trouver le bon tissu, les bons matériaux. Ce n'est pas les matériaux qui traînaient dans le coin. Les textures, les tons rompus des tissus, les boursouflures qui accrochent la lumière, les tensions, le jeu des ficelles et des cordes, même avec des nœuds ordinaires, sans sophistication, témoigne de la virtuosité d'un artiste qui maîtrise tout à la fois peinture, sculpture, architecture et dessin. Cet accompagnement audio vous est proposé par Tactile Studio en association avec le Centre Pompidou.